à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent, s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche? Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées? Que faire pour traiter une migraine?
Une douleur ou qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. C'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le professeur Amadou Gallo Diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, dans la seconde partie, nous vous proposerons Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop. Bonsoir professeur Amadou Diop.
Et bonsoir.
Les céphalées, on sait que c'est des sortes de maux de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine?
Céphalée veut dire mal de tête.
Et ce mal de tête inclut donc la migraine?
Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes.
Quelles sont ces causes?
Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine, qui est donc une céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, mi, ça veut dire moitié de quelque chose. Et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine?
Alors là, migraine, comme je vous le dis, siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants, en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
Professeur, que peuvent être ces facteurs?
Il serait pour vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Nous avons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
Oui, là, migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête. Le simple fait d'avoir un palud ou une grippe peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête.
Ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc?
La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire qu'au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine, dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidive pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection, alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un?
Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur?
Que disent ces patients?
Un bon nombre de malades vont vous dire, dans l'œil du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
Que signifie une douleur pulsatile?
C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça va contribuer tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne, suivi ou non d'autres signes accompagnateurs, nausées, vomissements, mal-être, vertige et autres, et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
Une douleur où qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM, ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, votre tension, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau, parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cacher une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça va être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité. Si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc entre 13, 14, 15, 16 ans.
Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer?
Ça va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines?
Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraines un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs, mais qui ne va pas avoir un siège prépondérant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la femme.
L'algie vasculaire cérébrale, qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs.
Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec Léon. Cette semaine, dans Carnet de santé, nous aurons un aperçu sur l'impact positif du bonheur sur notre bien-être. Le docteur Alphonsus Obayuwana, auteur du livre The Happiness Formula, partage sa formule du bonheur et comment le mesurer dans notre vie. Ensuite, nous parlerons d'une drogue synthétique qui fait ravage parmi les jeunes en Sierra Leone. Enfin, le Nigeria intensifie ses efforts pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Il est dit que le bonheur et la santé sont indissociables. En effet, selon les experts, le bonheur a un avantage aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Selon le dernier rapport mondial Gallup sur le bonheur, World Happiness Report, la Finlande reste la nation la plus heureuse pour la 7e année consécutive. La Libye est en tête parmi les pays africains. Des études scientifiques ont montré qu'être heureux est bénéfique pour le système immunitaire, pour la santé du cœur et la longévité. C'est aussi le cas du rire, une expression de bonheur qui peut jouer un rôle important dans l'amélioration de la santé. Cathy Short nous en dit plus depuis Lusaka, Zambie, dans cet élément relaté par Jacques Aristide.
Tshibale Mukobe est psychologue au Serenity Wellness Center situé dans la capitale zambienne. L'établissement prodigue des conseils en matière de style de vie, de même que dans le domaine de la réadaptation en lien avec l'alcoolisme et la toxicomanie. Elle confie à la VOA que le rire offre de nombreux avantages pour la santé. Il diminue les hormones du stress, appelées cortisol, et augmente également les endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles, réduisant ainsi les niveaux de tension et relaxant le corps.
Il contribue aussi à renforcer votre système immunitaire en augmentant la production d'anticorps qui aident à combattre certaines maladies. Ensuite, sur le plan psychologique, il aide à améliorer l'humeur au cas où vous ressentiriez des sentiments d'anxiété, de dépression, peut-être même de colère. Lorsque vous riez, croyez-moi, vous sentirez tellement mieux.
Au fil des années, des études médicales ont montré que le rire entraîne l'expansion des tissus à l'intérieur du cœur et augmente le flux d'oxygène dans le corps. Cependant, le rire n'est pas toujours synonyme de bonheur. Rachel Mukomwe-Sidat, thérapeute et directrice exécutive de Reveal to Heal, indique que le bonheur exprime la joie, le plaisir et le bien-être positif, tandis que le rire est une émotion qui peut être communiquée même quand quelqu'un n'est pas heureux.
Quand nous parlons de rire, n'importe qui peut rire à tout moment. Qu'il soit heureux ou non, il rira toujours. Il est tout à fait possible de dépeindre un faux style de vie. Si je reviens à la filière dans laquelle nous sommes en tant que thérapeute, j'ai vu des gens en public qui rient, qui peuvent sourire. Mais lorsque nous les recevons dans nos bureaux pour se parler, ils s'effondrent. Ils ne ressentent pas le bonheur.
L'humoriste Emmanuel Munzaka dit qu'il fait rire les gens sur la base de ses expériences de vie. Il ajoute que le rire l'a aidé à sortir de la dépression à plusieurs reprises.
Nous sommes les personnes les plus déprimées. Il nous faut tout simplement avoir du courage pour parler de ces moments de dépression que nous avons vécu dans la vie. Nous les transformons en blagues et faisons rire les gens qui pourront s'y identifier.
Lors d'un récent match de rugby, des habitants de Lusaka ont partagé leur avis à propos du rire.
J'aime rire. Oh ouais, j'aime rire. Tout d'abord, qui ne le fait pas? J'aime rire parce que rire est sain.
Quant à moi, j'ai défini les rires comme un lien social ou une activité sociale qui ouvre les conversations et renforce également les relations.
Qu'il s'agisse de partager une blague avec des amis ou de regarder une comédie avec des proches, le rire peut rapprocher les gens et créer des moments mémorables.
Selon des recherches publiées dans le livre Reclaiming the Sacred, 70% des personnes vivant dans une pauvreté extrême dans le monde sont toujours satisfaites de leur vie. La différence est seulement de 17% en plus pour les personnes riches. Qu'est-ce qui vous rend donc heureux et comment le rire vous affecte-t-il? Allons à Bamako, au Mali, pour quelques réactions.
C'est d'abord de sentir en l'aide avec ma famille, tous les jours quand je rentre à la maison, Mes questions à poser, c'est de savoir si la famille va bien, madame et les enfants. Si tout va bien, c'est d'abord donc c'est déjà un bonheur.
Le bonheur déjà qui signifie être heureux, avoir la paix du cœur, sans souci, je me sens tranquille, je ne pense à rien du tout quoi. Je suis flex.
Le bonheur c'est une question très relative. Hein. Vous avez dit en ce qui me concerne, pour moi le bonheur c'est des choses. Se contenter de ce qu'on a. Et puis, c'est garder de faire du mal à autrui. Pour moi, c'est ça le bonheur.
Bon, si je ne sens pas heureux, la première des choses, c'est effectivement de ne pas m'isoler, de chercher à échanger avec un collègue ou avec un camarade, et d'essayer un peu de lui poser des questions sur ce que je sens.
Généralement, quand je suis triste, j'écoute de la musique, des chansons ou du courant en général.
Si je me sens un peu triste, comme vous le voyez, je suis une personne un peu âgée. Je m'entoure de ma famille et les meilleures personnes qui me rendent heureux, ce sont mes petits-fils. Un petit câlin, ça me suffit et puis ça m'aide.
Quand vous faites l'humour, déjà, ça vous fait oublier les soucis. Donc, dès lors que vous oubliez les soucis, c'est vrai que ça ne peut pas résoudre les problèmes, mais le fait d'avoir un peu l'esprit tranquille, d'oublier un peu le souci qui est là, donc ça vous donne encore une force de pouvoir réfléchir et de pouvoir trouver une solution au problème qui est là.
Je pense que l'humour améliore la santé parce que, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, quand tu viens, tu lui donnes des compliments peut-être, puis tu fais rire la personne se sent mieux dans la peau, la personne oublie un peu son souci qui est sa maladie.
Le docteur Alphonsus Obayuwana est fondateur et PDG de Triple H Project USA et auteur du livre The Happiness Formula. Il explique son approche assez particulière pour mesurer le bonheur.
Happiness has various definitions.
Le bonheur a plusieurs définitions, mais je l'appellerai le sentiment de joie. Il existe deux types de bonheur.
One is called hedonia.
L'un s'appelle hédonie et c'est le bonheur brut que vous ressentez lorsque vous mangez votre plat préféré, que vous buvez votre boisson préférée ou en tant qu'être humain, lorsque vous avez un orgasme, c'est une hédonie. Il y a maintenant la deuxième forme de bonheur, plus holistique, eudaimonia. Il s'agit du sentiment que l'on éprouve à l'égard de la vie en général.
That you have about life.
Des études ont été menées sur le bonheur. Nous savons que les personnes heureuses vivent plus longtemps que les personnes malheureuses. Les personnes heureuses ont une meilleure tension artérielle. Je ne dis pas que le bonheur guérit l'hypertension, mais je dis que les gens heureux ont généralement une meilleure tension artérielle. Ils ont une meilleure réponse immunitaire.
Hope divided by hunger.
L'espoir divisé par le besoin équivaut au bonheur. Lorsque vous connaissez votre degré d'espoir et votre degré de besoin, vous les divisez. Vous divisez votre niveau d'espoir par celui de vos besoins et vous obtenez votre niveau de bonheur, que l'on appelle l'indice de bonheur personnel. J'ai découvert cela parce que je faisais des recherches sur l'espoir depuis l'école de médecine. Le rire peut être un signe de bonheur en fonction de la durée, de la raison du rire et de toutes les situations qui le justifient. Vous savez, il y a des millionnaires malheureux et des prisonniers heureux. En fait, lorsque vous regardez le rapport mondial sur le bonheur, vous voyez des pays africains en bas de l'échelle. Les pays du Nord, comme la Suède, la Finlande, l'Islande, la Suisse, sont ceux qu'ils placent en haut de l'échelle. Mais ils ne procèdent pas de la bonne manière. Les pays de la Caraïbe ont le taux de suicide le plus bas et ils ne sont pas du tout en tête de liste. Je pense que le bonheur est nécessaire à la vie de chacun d'entre nous.
En Sierra Leone, une drogue bon marché fait ravage parmi les jeunes. La consommation de koch, une forme de cannabinoïde synthétique, a augmenté dans le pays depuis son apparition il y a quelques années. Nani Talani nous en dit plus.
Mohamed Camara, 23 ans, est une victime du koch parmi tant d'autres stupéfiants. sa dépendance à cette drogue dévastatrice a détruit sa vie et brisé le cœur de sa mère.
Je suis un être humain, j'ai des sentiments. Même si ma mère dit que je n'ai pas de conscience et que je n'ai pas de sentiments, parfois, quand je suis assis seul et que je pense à ce que j'étais avant, j'ai l'impression que je suis en train de me détruire et de détruire mon avenir.
Sa mère, Memunatu Kamara, 49 ans, vend du poisson sur un marché local. Elle se plaint du fait que son fils a volé et vendu les quelques objets de valeur que possédait la famille pour se procurer de la drogue.
Je souffre chaque fois que je le vois parce qu'il n'est plus comme avant. J'ai honte en présence des gens, j'ai mal, je suis découragée par ce couche parce que l'état de mon fils n'est pas bon. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Plusieurs raisons poussent les jeunes à prendre cette drogue contre laquelle le président Julius Maada Bio a déclaré l'état d'urgence en avril. Le seul centre public de désintoxication en Sierra Leone n'est pas en mesure d'accueillir toutes les personnes ayant besoin d'un traitement contre la toxicomanie. Des groupes de la société civile tentent de combler les lacunes.
Depuis janvier 2024, date à laquelle nous avons lancé ce projet, près de 70 personnes ont changé de vie. Nous sommes heureux lorsqu'elles reviennent nous remercier et prier pour nous pour avoir changé leur vie.
Les travailleurs sociaux des ONG sont sur le terrain dans les bidonvilles de Freetown. Ils s'adressent directement aux personnes dépendantes du couche qui a poussé les jeunes à abandonner leurs études et à entraîner des problèmes de santé.
Dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, des agents de santé ont participé à une campagne visant à diffuser des informations sur le vaccin contre le VPH dans les villages. Le Nigeria lutte contre le cancer du col de l'utérus grâce au vaccin et de nombreuses personnes sont mobilisées pour faire passer le message dans les villages. Davantage avec Jenny Niwa.
Dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, des agents de santé ont pris part à une campagne d'information sur le vaccin contre le papillomavirus mis au point pour aider à prévenir le cancer du col de l'utérus. Lanbero Arinlade Ayoade, coordonnatrice locale, aide à informer les parents.
Ce vaccin est sûr et n'a aucun effet négatif sur les filles. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils veulent réduire la fertilité des filles, mais nous avons informé les parents que ce vaccin est sans danger et qu'il ne fait que prévenir le cancer du col de l'utérus.
Au Nigeria, le cancer du col de l'utérus est le troisième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, selon les Nations Unies. Sheu Tijani, auparavant réticent, a accepté de faire vacciner sa fille.
Lorsque les agents de santé sont arrivés et ont voulu vacciner ma fille, j'ai demandé ce que cela faisait. Lorsqu'ils m'ont expliqué les avantages du vaccin, j'ai autorisé mes filles à se faire vacciner.
En 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le pays a enregistré 12 000 nouveaux cas et 8 000 décès dus au cancer du col de l'utérus. Des parents comme Ramatola Yawoniran sont conscients de la situation.
Nous avons déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus et nous sommes conscientes de la maladie qu'il engendre. C'est pourquoi j'ai demandé à ma fille de se faire vacciner à titre préventif.
Bien que le vaccin contre le papillomavirus soit disponible dans de nombreux pays développés depuis une vingtaine d'années, il n'a été introduit dans les programmes de vaccination que dans la moitié des pays d'Afrique.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Le professeur Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la réalisation Zainab Abderrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire
qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé et votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 sur Universel sur